Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal sur Radio Okapi. Voici les titres de l'actualité de ce matin. Inondation à Kinshasa, corps des écoles détruites, 73 établissements de santé endommagés, plus de 3000 maisons touchées, 30 000 ménages sont sinistrés, indique le rapport de l'Institut National de Santé Publique. Il alerte notamment sur le risque élevé de choléra et de typhoïde. Irrégularité dans la récente ordonnance présidentielle nommant de nouveaux magistrats. Plus de 800 candidats magistrats réservistes du concours de 2022 dénoncent des pratiques de corruption et de non-respect de critères de nomination. La synergie de missions d'observation citoyenne des élections dénonce la nouvelle feuille de route de la CENI. Injustifiable et incompréhensible, elle exhorte le Parlement à rejeter ces documents et à demander des comptes à la CENI. Luc Loutala, coordonnateur de cette synergie, dévoile les raisons de cette prise de position dans ce journal. Restez avec nous pour des détails sur ces sujets et bien d'autres encore. Commençons tout de suite par notre première nouvelle. L'Institut national de santé publique publie un rapport d'alerte sur les dégâts causés par les inondations de 4 et 5 avril dernier à Kinshasa. Ce rapport plaide pour la mobilisation des fonds destinés au secours d'urgence en faveur des sinistrés et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures détruites par les inondations. Les détails avec Askin Zibia Tayuro.
Ce rapport indique que les inondations ont détruit 42 écoles, 73 établissements de santé et endommagé plus de 3000 maisons. 10 zones de santé sont sévèrement touchées, notamment Mbiza Ozone, Kingabwa, Kisenso, Matete, Maluku 1, Massina 1, Mongafula 1 et 2, Limete et Njili. Le rapport précise que plus de 30 000 ménages sont sinistrés, dont plus de 4 000 personnes hébergées dans les sites Iti Lumumba, Tata Raphaël et Stade de Martyr. La coordination nationale de l'Institut national de santé publique a enregistré 13 décès, 164 blessés qui ont été évacués et 6 disparus. Le rapport attire l'attention sur le risque élevé de maladies hydriques comme choléra, typhoïde qui pourraient affecter la santé publique à Kinshasa. Entre-temps, dans les sites d'hébergement, les sinistrés vivent dans des conditions précaires, précisent les rapports. Pour contenir la situation, le rapport recommande la protection des sinistrés qui doivent avoir des abris, réhabiliter les maisons et infrastructures détruites comme les écoles, les ponts. Il faudra également approvisionner les zones de santé touchées en médicaments et équipements médicaux.
Dans le même chapitre, le réseau congolais pour la gestion des déchets attribue les récentes inondations à la géographie de Kinshasa, à l'urbanisation défaillante et à la mauvaise gestion de déchets. Cette organisation avertit que ces facteurs pourraient continuer de provoquer de catastrophes si aucune mesure n'est prise. Pour y remédier, le réseau réclame l'organisation urgente des États généraux de l'environnement et de l'assainissement en RDC. Pierre-Albert Ngueliele, professeur de sciences et animateur de ces réseaux, explique l'utilité de ces états généraux au micro de Donna Madimba.
Le ministère du plan, le ministère de la recherche scientifique, je ne vois pas là où ils se croisent. Ils se croisent dans l'assainissement. Alors la société civile, aussi, c'est nous appelons le service informel. Et nous avons besoin aussi de la FEC, parce que c'est la FEC qui doit créer aussi des emplois, fabriquer les WC, les dalles pour les toilettes, tout ça doit construire de nouveaux entrepreneurs, pas les WC. C'est pour ça que nous disons, si tout le monde se met ensemble, chez nous en Afrique, lorsqu'il y a un problème, on se met ensemble, on discute, on trace les lignes de conduite et puis on désigne qui sera le coordonnateur de l'assainissement en République du Congo, comment décentraliser les services d'assainissement pour rendre opérationnel la constitution qui remet la responsabilité aux ETD. Ça, c'est l'importance vraiment des états généraux pour qu'on puisse parler un même langage, avoir une bonne structure. Parce que l'insalubrité au Congo, c'est structurel et légal. Et tant qu'on ne résout pas le problème structurel, on peut amener 1 million, ça ne servira à rien.
Parlons santé. Depuis hier jeudi, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite ont débuté dans plusieurs provinces de la RDC. À Kinshasa, cette opération couvre les 35 zones de santé de la capitale. La méthode adoptée est la stratégie de porte à porte et elle se termine demain samedi. Cette campagne cible les enfants de 0 à 59 mois. À cet effet, le coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV de Kinshasa invite tous les parents à accueillir les vaccinateurs qui viendront vacciner leurs enfants afin d'éradiquer cette maladie en RDC. Écoutons le médecin coordonnateur du programme élargi des vaccinations de Kinshasa, Dr Eddy Makengo, au micro de Sarah Soumbela et Stanislas Djoumi.
Et là, nous sommes en train de lancer une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville-province de Kinshasa qui va concerner les 35 zones de santé. Nos équipes de vaccination vont passer de porte à porte, de ménage à ménage, d'une avenue à une autre, d'une parcelle à une autre parcelle, pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Par rapport aux parents, nous leur demandons d'abord d'accueillir les vaccinateurs qui vont passer dans leur ménage, de les accueillir et de leur confier leurs enfants de 0 à 59 mois, donc les enfants de moins de 5 ans, pour qu'ils reçoivent les deux gouttes de vaccin. Ce sont les deux gouttes de vaccin qui sont protectrices pour leurs enfants contre cette maladie qui est invalidante.
Toujours à Kinshasa, pour boucler ce chapitre, la campagne de vaccination se déroule également sur le site hébergeant le sinistré de récentes inondations. Le résident de l'Institut Lumumba à Limété ont accueilli le vaccinateur avec beaucoup de joie. Plantin Yambenga nous en dit plus dans ce reportage.
Les parents ayant des enfants en âge de recevoir les vaccins se sont présentés en masse devant les stands installés par les équipes du ministère de la Santé. À l'école Lumumba, où sont logés les sinistrés du quartier Ndanou, cette campagne a suscité la joie de plusieurs d'entre eux. Les médecins chefs des zones délimitées, le docteur Devos Kabemba Kalenga, revient sur le déroulement de cette campagne.
Et la campagne évolue normalement. Nous demandons aux mamans de nous amener les enfants de 0 à 59 mois. Les relais communautaires passeront de porte en porte. Et ici au site, nous allons voir comment monter des stratégies. Stratégie spéciale pour que tout enfant de 0 à 59 mois soit vacciné.
Les enfants qui ne recevront pas ces vaccins seront exposés à plusieurs risques, explique David Njoko, infirmier superviseur de la zone de santé délimitée.
Il y a beaucoup de maladies lorsque l'enfant n'a pas eu les vaccins, notamment la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite.
Ces parents qui viennent de faire vacciner leurs enfants expriment leur joie.
Je les ai fait vacciner pour le mettre à l'abri d'éventuelles maladies sur recommandation de médecins. Je suis dehors, il y a beaucoup de maladies. J'ai résolu de faire vacciner mon enfant pour l'en protéger.
Notons que cette campagne s'étale sur 4 jours, soit de jeudi à dimanche.
Comme indiqué dans les titres, alors que se tient l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, dont les travaux ont débuté le lundi 7 avril, plus de 800 candidats magistrats réservistes issus du concours de recrutement de 2022 dénoncent des irrégularités dans la récente ordonnance présidentielle nommant des nouveaux magistrats. Ils accusent des pratiques présumées de corruption et le non-respect des critères officiels de nomination. Un collectif de ces candidats magistrats réservistes s'est exprimé au micro de Radio Okapi appelant à leur nomination avant le 22 novembre 2025, date à laquelle leur statut pourrait être contesté juridiquement. Écoutons l'un d'eux au micro de Radio Okapi.
Nous, candidats magistrats réservistes, prenons la parole avec respect, mais aussi avec gratitude envers une promesse qui nous a été faite. La nomination de tous les candidats magistrats est satisfaite au concours session 2022. Aujourd'hui, ces derniers ont été nommés tandis que nous restons toujours dans l'attente, dans un silence lourd et sans justification. Pourtant, ceci rappelle urgent du Conseil supérieur de la magistrature que nous avons tous quitté nos provinces et villages pour allier Kinshasa. Certains candidats n'ayant pas où aller vivre passent nuit à la belle étoile. Ces déplacements ont engendré de lourds sacrifices, frais de transport, logement, démarches administratives. Certains ont perdu leur emploi, d'autres se sont endettés. Et quelques-uns, hélas, ont même perdu la vie. Semblerait-il que plus de 200 magistrats irréguliers et n'ayant pas reçu au concours sont nommés dans les ordonnances proposées par les CSM au chef de l'État depuis 2023. Face à cette situation, nous réitérons notre appel au chef de l'État magistrat suprême. Monsieur le Président, en procédant en notre nomination, vous répondez à l'urgence, à l'équité et à l'espérance.
En lien avec l'agression qu'a subie la RDC dans l'est du pays, les victimes des incursions rwandaises dans les villes de Goma et Bukavu sont immortalisées dans un film documentaire intitulé « Carnage, martyrs des femmes et enfants lors de l'occupation de Goma et Bukavu » par le RDF M23. Ces courts-métrages, projetés hier jeudi à Kinshasa, relatent les diverses exactions et violations commises par les rebelles soutenus par l'armée rwandaise dans ces deux villes. L'assistance a salué cette initiative réalisée par le Mécanisme National de Suivi. C'est un reportage de Blaise Ondongala Mayanda.
Les coordonnateurs du Mécanisme National de Suivi affirment avoir produit ces films pour que les mémoires des Congolais victimes de diverses exactions de l'Est du pays ne soient pas jetées dans les oubliettes. Alphonse Toumbaloaba est d'avis que la RDC devait à ce moment s'est doté d'une commission nationale pour poursuivre les travaux d'identification des exactions qui se commettent dans sa partie orientale.
On devrait avoir une commission congolaise à l'œuvre pour continuer le rapport mapping.
Il a annoncé la sortie d'un documentaire complet sur les 3 décennies de souffrances endurées par les populations congolaises dans ces coins du pays en proie au bruit des bottes. Pour sa part, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine estime que ce documentaire permet de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à la suite de cette guerre imposée par les Rwandais. Yolande Elebe note cependant que ce documentaire est un véritable plaidoyer pour que toute victime obtienne justice.
Ce documentaire est non seulement un acte de mémoire, mais aussi un plaidoyer urgent pour la justice et la réparation. Un plaidoyer pour l'arrestation des commanditaires.
De nombreux intervenants ont reconnu que ce film et documentaire est un outil puissant qui devra servir de catalyseur pour des discussions profondes et aider les Congolais à construire un avenir pacifique.
L'actualité inclut également la dénonciation de la société civile de la chefferie de Ouattalinga dans les territoires de Beni au Nord Kivu concernant l'exportation frauduleuse des cacao vers l'Ouganda via le poste frontalier des Nobili situé à 90 km de la ville de Beni. Cette structure citoyenne préoccupée par la situation appelle à l'intervention des autorités pour y mettre un terme. Les détails avec Marcel Papimukeba.
Pour la société civile de Ouattalinga, cette fraude implique des militaires des FRDC qui participent activement à cette opération. Odette Zawadi en est la présidente.
La fraude est organisée par de différents services se trouvant le long de la frontière. Vous trouvez par exemple le colis de cacao qui sont accompagnés par le service militaire en tenue et en armes, faire traverser les produits au niveau de l'Ouganda.
Le colonel Mac Azukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola Incanor, annonce une action de la justice militaire.
Aucune autorité militaire ne peut mandater un officier ou un soldat de l'armée la mission de tremper dans le commerce de cacao ou autres produits. Si ces allégations-là sont avérées, la justice militaire va s'en occuper.
Rappelons que Nobili et Kasindi, dans les territoires de Beni, frontaliers avec l'Ouganda, sont les 2 postes frontaliers du Nord Kivu, encore sous contrôle du gouvernement, depuis l'occupation de Bunagana, Ishasha, Munyaga, ainsi que des grandes et petites barrières de Goma par les M23. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sachez aussi que Kinshasa accueillera la semaine prochaine la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. En préparation de cette rencontre prévue pour le 15 avril, plusieurs experts des pays membres de la ZELCAF se réunissent déjà cette semaine à Kinshasa. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, qui a rencontré ces experts hier jeudi, exprime sa satisfaction. Il estime que la tenue de cette réunion à Kinshasa démontre que la RDC est un pays fréquentable, envoyant ainsi un signal fort aux agresseurs de la RDC. Écoutons-le dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
La RDC est la capitale de l'Afrique depuis le 7 avril de cette année. Les experts de tous les domaines y sont réunis ici à Kinshasa pour préparer la réunion qui sera présidée par le président de la République le 15 avril 2025. Les chefs d'État africains voudraient faire de cette zone de libre-échange continentale un instrument de développement de l'Afrique parce qu'il a été constaté que le commerce entre nous les Africains est très très faible. Il faudrait l'élever au niveau où il atteigne peut-être 80% du volume du commerce international pour que des échanges aient lieu entre nous. pour que les produits que nous avons dans chacun de nos pays puissent traverser les frontières librement sans beaucoup de difficultés. Je rappelle ici que chaque pays a transmis une liste de produits qui feront l'objet de l'ouverture et du passage libre au niveau des frontières, mais également chaque pays a transmis une liste de produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire. Quand tous les pays africains viennent ici, cela démontre à suffisance que la RDC est fréquentable et c'est un signal fort à ceux qui font la guerre à l'est de la RDC qu'ils n'ont pas de chapitre dans notre pays parce que le président tient à faire de la RDC une vitrine par excellence de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine.
La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, est plongée dans le noir suite à une coupure générale d'électricité. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL du Grand Bandundu évoque une probable panne sur la ligne reliant Kinshasa à Bandundu. Prosper Bakukuwanza aborde également les coupures intempestives d'électricité récemment observées à Bandundu qu'il attribue à la distance de la ligne de transport du courant provenant du barrage d'Inga et aux intempéries. Plus d'explications avec Irène Boma Luzolo.
C'est aux environs de 17h locales de mercredi qu'une coupure générale d'électricité s'est observée dans toute la ville de Bandundu. D'après le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL du Grand Bandundu, à la base de cette situation, une probable panne serait survenue sur la ligne qui transporte le courant électrique de Kinshasa jusqu'au chef-lieu du Kwilu. Par ailleurs, dans une interview accordée mardi à Radio Okapi au sujet des coupures intempestives et prolongées d'électricité tant décriées pendant plusieurs mois dans certains quartiers de Bandundu, l'ingénieur Prosper Bakuku explique ce qui suit.
D'abord, pour votre information, l'électricité que nous avons dans la ville de Bandundu n'est pas produite ici à la ville de Bandundu. Cette électricité provient de Inga, c'est pratiquement près de 1000 km. Et pour amener cette énergie de la centrale d'Inga jusqu'ici, ça a beaucoup de préalables aussi. Et quand il pleut, peut-être au réseau à Mont là-bas, ça pose problème par rapport au transport d'énergie. C'est comme ça que vous constatez de temps en temps, nous avons des manques d'électricité. En dehors de ça, nous avons aussi connu une panne.
Pour le moment, les équipes sont dépêchées sur les lieux pour découvrir la panne afin de décanter la situation. Et du côté de la population, le souhait est que la solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Tanzanie, le leader du principal parti d'opposition, Tundu Lissu, a été inculpé pour trahison. Selon le parti Chadema, Lissu a été arrêté avec d'autres membres du mouvement après avoir participé à un meeting le mercredi 8 avril dans la ville de Mbinga au sud de la Tanzanie, près de la frontière avec le Mozambique. L'opposition rapporte que la police a dispersé la foule présente au meeting à l'aide de gaz lacrymogène. Chadema affirme que la répression politique s'est intensifiée ces derniers mois alors que le pays se prépare à des élections générales dont une présidentielle en octobre 2025. Ce n'est pas la première fois que Tundu Lissu, qui a pris la tête du parti en début d'année, est arrêté par les autorités.
L'invité.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Simon Sell considère la publication de la nouvelle feuille de route de la CENI comme injustifiable et incompréhensible. Lors de son intervention sur Radio Capi, Luc Loutala, coordonnateur de Simon Sell, a recommandé au Parlement de rejeter ce document et d'exiger de la CENI un calendrier électoral actualisé accompagné d'un budget. Il a également encourager le gouvernement à finaliser l'évaluation du processus électoral en cours. Luc Loutala s'est entretenu avec Blaise Ndongala. Suivez.
Bonjour Monsieur Luc Loutala.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
Quelle analyse faites-vous de la publication de la feuille de route électorale 2025-2029?
On a du mal à comprendre pourquoi la CENI peut publier une feuille de route en ce moment, parce que cela ne fait l'ombre d'aucun secret que la CENI dispose d'un calendrier qui s'appelle le calendrier électoral qui courait pour la période allant de 2022 à 2027. Et l'on sait qu'il y a eu un budget que la CENI devait épurer toutes les opérations. Mais c'est totalement surprenant, incompréhensible, injustifiable de voir que la CENI publie une feuille de route dans laquelle elle reprend des opérations qui étaient déjà dans son calendrier électoral, et donc ce qui va amener à une double planification et donc à une double budgétisation aussi pour la même période. Cette feuille de route soulève énormément plus de problèmes en termes de compétences, d'opportunités.
Alors, quelle est selon vous l'incidence de ces documents sur les plans socio-politiques?
C'est un document de repositionnement de la CENI. On suppose que c'est pour avoir un nouveau budget et se relancer dans les activités, parce qu'on a vu qu'ils prévoient de refaire une cartographie alors qu'ils ont déjà une cartographie qui n'a même pas 2 ans. Et ils ont prévu de refaire l'identification des électeurs. Donc on pense que c'est juste un document de repositionnement de la CENI et qui ne sert en rien la cause de la démocratie.
Vous avez un message à lancer au nom de la CIMOCEL aux autorités politico-administratives, pourquoi pas à la population congolaise?
Oui, nous demandons à l'Assemblée nationale, donc au Parlement qui est, à l'Assemblée nationale qui est le tuteur de la CENI, de récuser de faire l'audit de la CENI. Mais en même temps, nous demandons au gouvernement d'organiser une évaluation globale, inclusive du processus électoral pour essayer de recréer le consensus et un minimum de confiance entre les parties prenantes. La population, nous l'appelons à ce qu'elle sache que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il ne faut donc pas accepter que on nous impose une démocratie qui est la démocratie des institutions, où les élus ont le pouvoir qui vient des institutions pour servir des institutions et ne pas servir la population.
Que répondez-vous, monsieur le coordonnateur, à ceux qui penseraient que la CIMOCEL appelle la population à se soulever?
La CIMOCEL ne peut pas appeler la population à se soulever. La CIMOCEL appelle la population à devenir consciente. Vous savez que l'avenir d'un pays réside dans la conscience de sa population. Donc ceux qui disent ça n'aiment pas la population. On ne peut pas aimer la population et demander à la population de ne pas s'assumer dans ses droits civiques et citoyens.
Monsieur Luc Lutala, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Notre invité, Monsieur Luc Lutala, coordonnateur de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. CIMOCEL répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayonda. C'est tout pour ce journal. Mise en onde par Polydor Basunga. Supervision par Pelequipe et Lamundo. Présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. À très bientôt pour une nouvelle édition sur Radio Capi.